des livres plein les oreilles. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas ce qui fait que mon camarade Mathieu Tessier est complètement crampé de l'autre côté de la vitre. Peut-être parce que c'est la dernière émission et qu'il flotte ici, bien, une petite ambiance de dernière. C'est Clotilde Saye qui vous parle, bien sûr. Je suis ravie de vous retrouver en ce 20 juin. C'est l'émission des livres pleins les oreilles qui commence, qui est consacrée, vous le savez, aux livres audio. Où qu'il soit produit, chez nous ou ailleurs à l'extérieur de nos frontières. Le prix des libraires du Québec, ça c'est un événement qui est toujours très attendu dans l'année par les artisans du milieu littéraire et par le lectorat. Et cette année, dans la catégorie roman Québec, c'est Alexis Morin, autrice du livre « Ouvrir son cœur » paru aux éditions Le Quartanier, qui l'a reçu. Cette année, Vues et Voix s'est associée à cet événement-là en produisant la version audio de ce livre lu par nul autre que Ève Landry. Eh bien, en ce début d'émission, je reçois la plume et la voix d'Ouvrir son cœur. Et puis, nous allons peut-être, si le temps nous le permet, jeter une oreille sur un extrait de Le Lambeau de Philippe Lançon, prix des libraires dans la catégorie roman hors Québec. En seconde partie, je vais vous parler avec un immense plaisir de Bat féministe que j'ai là sous ma main droite de Roxane Gay. C'est un essai que je viens de finir de lire pour vous à haute voix. C'est un autre livre à écouter dès maintenant sur notre plateforme de livres commerciaux, entre autres, dont je vous rappelle d'ailleurs le lien, l'adresse, livreaudio.vuesetvoix.com. Et puis, pour finir la saison en beauté, on va s'arrêter sur I'm Your Man, c'est la bio de Leonard Cohen, telle qu'elle a été lue par Marie-Josée Forget, qui va être également mon invitée en studio en seconde partie. Voilà pour le programme des réjouissances. C'est donc la dernière de la saison 2 des livres pleins les oreilles et c'est parti. Une univers félinienne, pourquoi pas, pour accueillir Alexis Morin. Bonjour Alexis.
Bonjour Clotilde.
Alexis Morin, Ouvrir son cœur, et bonjour Ève Landry. Alors bonjour. Alexis, autrice de ce livre, et Ève Landry, lectrice de ce bouquin. J'ai l'habitude de le dire à tous les auteurs et les autrices que je reçois ici. Je finis toujours de lire le livre à peu près une heure avant le début de l'émission parce que je veux m'en imprégner complètement. Je ne veux pas avoir oublié, en d'autres termes. Ici, il y a à peu près 150 post-it. J'aurais pu en mettre 50 de plus.
Mais là, ça aurait servi à rien.
Comment ça, ça aurait servi à rien?
Parce qu'il y en va y en avoir, il y en aurait un à chaque page, en fait.
Oui. Voilà. En fait, il y en aurait un à chaque paragraphe. Alors, mesdames et messieurs, l'émission ne va pas durer une heure, mais bien 3h30 aujourd'hui, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à vous demander. Et honnêtement, je me posais la question, par quelle question je commence? Et heureusement, c'est vous qui m'avez donné la petite porte.
Oui.
Oui, et vous me l'avez donnée dans la troisième partie de votre livre, qui est une partie que je qualifierais presque de justificative. Et en même temps, c'est là où toutes les peurs que vous nourrissez par rapport à ce bouquin qui a reçu un prix, donc j'imagine que toutes vos peurs se sont maintenant envolées. Non, pas
c'est pas si simple que ça.
C'est pas si simple que ça.
En fait, les préoccupations des écrivains, excusez-moi, c'est toujours... Ça dépend pas tant que ça de la réception, de la critique, de la reconnaissance que les prix apportent, même si c'est extraordinairement agréable. Ouais, mais on fait ça parce qu'on est, parce qu'on les ressent à l'intérieur de soi. On est en tension par rapport à ces questions-là, la légitimité, la confiance en soi, le droit de parler, le droit d'aborder certains sujets. Voilà.
Et vous écrivez, entre autres, justement, quand je parlais de ces questions-là, moi, je cite beaucoup, vous êtes en page 310, donc voyez-vous, assez loin dans le bouquin. Et ce livre porte-t-il sur elle? Vous parlez de votre amie Fanny, dont on va reparler, bien sûr. J'ai tant oublié, je l'ai répété tant de fois, comme pour m'excuser. Ce livre porte-t-il sur moi? Est-ce que j'ai le droit d'écrire sur elle, d'écrire sur moi? Quand j'ai tant oublié, ai-je le droit d'écrire sur moi, d'attirer l'attention sur moi et de parler de la mort et de parler de la haine et de parler de la douleur alors qu'elle est morte et pas moi? Alors ce livre, il parle d'elle, de vous, de la haine, de la honte, de la mort?
De tout ça en même temps.
De tout ça en même temps.
Et bon, ce passage-là, il pose toutes ces questions-là parce que cette partie-là, elle fait aussi un peu... elle essaie de faire la démonstration, en quelque sorte, que le livre, à partir du moment où il devient un livre, à partir du moment où il est écrit, il cesse de parler réellement de moi ou d'elle ou de quoi que ce soit que nous ayons vécu ensemble, parce qu'il devient un objet, il devient une œuvre.
Mais qui ne vous appartient plus?
Non, c'est ça, ça ne m'appartient plus, mais en même temps, je suis peut-être allée un petit peu trop loin par rapport à ça, parce que la famille de Fanny, elle s'est emparée du livre assez rapidement et elle a répondu à ma question c'était grandiose, là. La sœur de Fanny a découvert l'existence du livre à peu près 2 semaines avant la parution. Quand le livre est apparu dans les titres à surveiller de l'automne dans le magazine Châtelaine, c'était en octobre à peu près. Donc, ça s'est répandu comme une traînée de poudre sur Facebook. Dès l'apparition, elle l'avait entre les mains. Elle l'a lu 2 jours plus tard. Elle l'a fait lire à sa mère et elles m'ont dit « c'est fou ». On a l'impression d'avoir retrouvé là, l'espace de ces quelques centaines de pages-là, notre fille. Elle reconnaissait leur fille, toutes les deux, la mère et la sœur, ce qu'elles aimaient de leur fille, ce qui était plus difficile avec elle. Puis ça leur a fait énormément de bien. Puis c'était super émouvant, en fait. Là. Ouais. Toutes les peurs que j'avais n'étaient pas nécessairement justifiées. Sa mère m'a dit « t'aurais dû m'appeler quand tu te demandais, quand t'écrivais sur sa maladie ».
Est-ce que vous y avez pensé?
Ben oui, mais non. Oui, j'y ai pensé. Ouais. J'aurais aimé ça, le guts de le faire, mais j'y suis pas arrivée. Là. Ça faisait trop longtemps que je les avais pas vus. La dernière fois que j'avais vu cette femme-là, c'était au salon funéraire. Ça se faisait moins.
Que vous racontez, d'ailleurs. Ouais. Hein, puisqu'évidemment, bon, je dis évidemment, ça se finit, on peut dire, avec la mort de Fanny, puisqu'après, c'est le chapitre. Ce sont les questionnements. Parlons-en de Fanny, parce que les gens qui nous écoutent, qui n'ont peut-être pas encore lu le livre, se demandent peut-être qui elle est, cette Fanny. Fanny, c'est une amie d'école, parce que tous vos souvenirs... traverse beaucoup cette période de l'école et de toutes les vulnérabilités qui vont avec. Hein.
Donc, Fanny, je l'ai rencontrée à l'âge de 4 ans, c'était ma meilleure amie. C'était une petite fille qui était ma voisine. Puis, en fait, ce qu'elle avait de particulier, elle, c'est qu'elle souffrait d'une maladie cardiaque très grave qui s'appelle la transposition des gros vaisseaux. Sans vouloir faire un trop gros exposé sur le sujet, la transposition des gros vaisseaux, c'est quand l'artère principale et la veine principale sont interchangées. Là. Donc, ça fait en sorte que le sang coule dans le corps en deux loupes isolées l'une de l'autre plutôt qu'en 8. Et donc, le sang ne s'oxygène pas. Et donc, sans la chirurgie moderne, cet enfant-là n'aurait pas survécu 5 minutes après sa naissance. Donc, c'est
ce qu'on appelle le phénomène de l'enfant bleu. Et vous, vous vous disiez à un moment donné, parce que vous aviez un œil croche. D'ailleurs, le livre aurait très bien pu s'appeler comme ça.
C'était, on y a pensé.
J'étais sûre. J'étais convaincue. J'étais certaine de ça. Donc, aimez-vous, alors, vous vous sentiez, vous aviez besoin d'avoir ce point commun avec elle, d'être vous-même, entre guillemets, transformée, parce que vous avez subi vous-même, évidemment, plusieurs opérations par rapport à...
Oui, deux fois opéré pour corriger mon strabisme, qui n'était pas corrigé quand j'étais à l'école primaire, mais qui s'est corrigé à la fin de ma croissance.
J'aurais peut-être dû me taire plutôt que d'écrire ce livre plaignard, ce livre indécent, ce livre qui déforme la réalité. Wow! Wow! Ève, je me tourne, si vous me le permettez, vers Ève. Quand vous avez lu ce genre de phrase, vous ne vous êtes pas dit, ben là, non. Non, ce livre n'est pas plaignard, ce livre n'est pas indécent, ce livre ne défend pas la réalité, ça.
Ben non, ben en fait, j'avais aucun jugement en lisant.
Non, hein.
De un, parce que je savais que je devais le lire, donc je devais m'en imprégner le plus possible. Fait que j'ai vraiment lu, c'est niaiseux, mais j'ai vraiment ouvert mon cœur pour pouvoir lire ce livre. Mais non, au contraire, ce que j'aimais, c'était ça. Je trouve que c'est très sincère et très honnête de la part d'Alexis d'avoir tous ces questionnements-là. On en a parlé un peu en début d'émission, avant l'émission, toi et moi, Clotilde, c'est-à-dire que tout au long de la lecture, ces questionnements-là nous viennent à nous, lecteurs.
Absolument.
Puis on est comme...
On pose le livre.
Justement,
hein?
Comment comment réagit la maman de Fanny, comment réagit oui. les amis d'école, oui. comment réagissent oui. tout ça. Bon, on pense à tous ceux-là, puis on se dit, puis en même temps, moi, je me dis toujours, tant pis pour eux, tu sais, c'est pas grave, oui. l'auteur a le droit d'écrire ça, on est en, tu sais, tout ça fait que, mais le questionnement, quand arrive cette partie-là, vers la fin du questionnement d'Alexis, est comme, il nous fait un peu de bien dans un sens. On fait mm. ah, tu vois, elle y pense. Puis en elle même temps, pense, tu fais ouais. ah, fait, ouais. il y a un mini côté de moi qui aurait ouais. fait, ah, j'aurais, mais il y a comme, tu sais, il y a un bout très cru où tu dis que tu chies dans la classe.
Oui, ouais. Ouais.
Moi, tu vois, ce personnage-là, ce côté-là de l'auteur, puis de la du côté narratif et de la narratrice, il y a comme quelque chose qui me plaisait là-dedans, ouais, de je ouais. m'en fous un peu. Fait que quand est arrivé le questionnement, on dirait que ça t'a un peu adouci, ça a un peu ouais. adouci le personnage. Puis moi, j'aimais ça dans un sens, mais un autre côté de moi, j'aimais ça m'imaginer qu'il n'y avait pas ce questionnement-là, mais bon.
Parlons-en de ces vulnérabilités. Je me retourne vers vous, Alexis Morin, bon, qui sont toutes finalement, à un moment donné ou à un autre, attachées au TDAH, qu'à l'époque, on ne vous avait pas diagnostiqué.
Non, car chez les filles, dans les années 90, ça n'existait pratiquement pas.
Ça existait juste chez les garçons?
Ben, c'est pas que ça n'existait pas chez les filles. Il y avait plein de filles TDAH, mais elles étaient assez rarement dépistées. On les voyait pas dans les classes. À l'époque, le TDAH, c'était vraiment associé aux petits garçons, puis à leur personnalité, leur turbulence, leur physicalité plus grande souvent. En fait, c'est ça, c'est les symptômes de l'hyperactivité qui étaient les plus souvent utilisés pour décrire le TDAH, alors que les symptômes d'inattentivité ou les symptômes de l'hyperactivité tels qu'ils se présentent plus souvent chez les filles. Par exemple, les filles hyperactives parlent énormément, ce qui était mon cas. Elles ont une plus grande impulsivité. Elles vont avoir tendance à dire tout ce qui leur passe par la tête sans avoir le temps d'y réfléchir. Et disons, il y a aussi l'hyper-émotivité, ouais. les lacunes en termes de fonctions exécutives. Tout ça, c'est des choses dont on sait maintenant que ça appartient au TDAH, mais à l'époque... surtout quand ça se présentait chez des filles, on interprétait ça plutôt comme des problèmes de personnalité, des problèmes chez la personne. La petite fille est arrogante, c'est une drama queen, elle est désobéissante, elle est indisciplinée, elle est paresseuse, elle est égocentrique. Et ça, c'est toutes des choses que je me suis fait dire à un moment ou à un autre dans ma vie, parce qu'en plus, souvent, les personnes TDA ont aussi un haut potentiel. Et là, les gens voient l'écart entre le haut potentiel.
Entre autres intellectuels, combien de fois vous étiez la bolée, celle qui avait le nez dans les bouquins.
Il n'arrête pas de te dire, mais mon Dieu, sur mes bulletins, c'était tout le temps écrit, justement, là, c'était écrit que je ne me forçais pas, que je ne faisais aucun effort, que je n'actualisais pas mon potentiel. C'était l'histoire de ma vie.
Je vous rappelle que je suis avec Alexis Morin, auteur de ce livre « Ouvrir son cœur » qui a obtenu le prix des libraires 2019 dans la catégorie roman. Je voudrais demander à Eve Landry, puisqu'elle est là également en studio, de nous lire un extrait de ce livre-là. Nous sommes en page 22 et juste après, on fera une toute petite pause musicale qui va vous rappeler certainement un souvenir, Alexis.
C'est pas la page 22.
C'est pas la page 22. Bon, non, bah,
je vais
c'est une part.
Ce que tu m'as dit.
Voilà.
Parce que la page 22, c'est
ou
pas
29
la...
peut-être, non?
Ouais, peut-être, attends.
Ce serait pas le fragment 22?
Non, je pense, attends, c'est... Ah, c'est ça le direct, hein, on est... regarde, je pense que c'est écrit extrait
mais, oui,
sur
tout à fait, sauf
mais
que...
Mais c'est pas celui-ci.
C'est pas celui-là. Et... Ben, ça va être... Oh, c'est ça, c'est le numéro 22.
C'est le numéro 22, pardon.
Mais la page 44.
D'accord.
Donc... J'ai lu quelque part que les anciennes victimes de bullying peuvent présenter des symptômes de choc post-traumatique, mais j'ai du mal à croire que cela me concerne. Ce que j'ai vécu n'était pas assez cruel. J'ai vécu plus de rejet que de bullying. J'étais très seule, surtout au primaire. Je ne me souviens pas de jeux ou de conversations dans la cour d'école. Quand je me tourne vers mon enfance, que j'essaie de la revoir, je retrouve cette peur bien plus que les images. Pendant des semaines, pendant des mois, parfois, quand la récréation commençait, quand la cloche sonnait, j'allais me cacher au lieu de rejoindre les autres. La sonnerie ne me causait aucune joie, même celle qui annonçait la fin des classes à 15 heures. Elle marquait le moment de m'enfuir. Aucun garçon ne me poursuivait pour me voler mon argent de poche. Je n'ai pas vraiment vécu de violence physique, presque pas de harcèlement sexuel. Je ne me comportais pas comme une victime innocente. Je n'étais pas une personne désirable, je n'étais pas très gentille. Je n'étais pas une amie intéressante. J'habitais une sorte de désert social, j'avais peur des autres. C'est difficile de dire qui a mis cette peur en moi. C'est difficile d'être juste. À part m'exclure, ceux qui m'ont exclu n'ont rien fait. Comment en vouloir à des gens qui n'ont rien fait? On ne peut pas exiger le respect ou l'amitié de quelqu'un. Ceux qui me détestaient, ils en avaient le droit. J'aurais pu faire plus d'efforts pour les apprécier, changer d'attitude, sourire, leur laisser des chances. Comprendre qu'ils avaient peut-être peur de moi, eux aussi. La peur me dominait. J'en devenais aveugle aux autres, incapable de voir le bon en eux. Je les jugeais sans les connaître. Personne ne veut pour ami une fille qui hait sans connaître, qui se croit meilleure que tout le monde, qui ne parle jamais que pour étaler ses opinions intransigeantes et argumentées, juste pour avoir raison, juste pour gagner. Une fille qui préférait souvent rester enfermée chez elle le samedi, mais qui a peur de l'avouer, et qui vous montre de toutes sortes de manières qu'elle n'a pas confiance en vous.
La nuit court après le jour court après la nuit. Ils font le tour de la cour, bon dodo, mon ami. Fais des rêves en couleur, avec des fleurs, des cœurs. Le petit matin s'en vient, il n'est pas bien, bien loin. La nuit court après le jour, le jour court après la nuit. Ils font le tour de la cour, bon dodo, mon ami.
Alexis, c'est oui. Important, ça, c'est cette chanson-là, cette berceuse-là. Oui. Elle est dans le bouquin.
Oui, elle est dans le bouquin. Hein? C'est la chanson que mes parents m'ont chantée si tard que ça en était peut-être presque inavouable.
Puisque vous parlez de vos parents, avant de me tourner vers Ève, vous parlez peu de vos parents, mais il y a un très beau passage que j'aime beaucoup. Ève, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais... C'est le passage de l'arbre, quand elle monte à l'arbre et que le père, lui, reste parfaitement calme et qu'il lui dit où monter, comment et surtout comment descendre. Mm-hmm. Et que là, elle dit, mais regarde, je pourrais sauter. Puis, non, lui reste calme et il a une confiance en vous inébranlable à ce moment-là. Ça a dû vous faire du bien, cette confiance-là.
Oui, c'est ça. Parce qu'il savait que j'allais être capable de le faire, parce qu'évidemment, c'était pas si difficile que ça, et c'est pour ça qu'il a exigé que je le fasse moi-même, parce qu'il voulait pas, dans le fond, il voulait pas céder à mon caprice de recevoir de l'aide pour quelque chose qui était après tout très facile. Il voulait que je mette l'effort supplémentaire puis que j'apprenne effectivement à faire la chose.
En tout cas, c'était bien touchant.
Oui, mais c'est mes parents fonctionnaient pas mal toujours comme ça. Là, t'sais, même devant le danger, parce que ça sert à rien de faire peur à un enfant.
Ève Landry, quand vous avez ou quand tu as lu ce livre, est-ce qu'il y a des moments où tu avais... Bon, évidemment, tu le lisais à haute voix, là, il y avait l'aspect contrat de la chose.
Mais je l'ai lu avant aussi, dans mon lit, j'ai pu recevoir tout ça.
Et est-ce qu'il y a des moments où tu l'as posé au fond de ton lit, puis est-ce qu'il y a des moments où tu t'es retrouvée, toi, dans une cour d'école?
Plein de fois. Moments, oui, beaucoup. J'ai pas été victime de rien, j'ai pas eu de bullying, j'ai pas vécu de rejet, bien au contraire.
Eh bien, ça m'a fait plaisir, c'était Ève Landry.
Merci, au revoir. Malgré ça, je pense que, tu sais, moi, c'est surtout le rapport. Tu disais qu'il n'y a pas beaucoup de moments où on parle avec. Où Alexis parle de ses parents et tout ça, mais moi, on dirait que c'est ce que je retiens le plus. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai vraiment reconnu mon père et ma mère dans cette façon d'éduquer, oui, mais en fait, beaucoup de liens. Le rapport avec le papa et l'usine. Mon père a travaillé toujours à la même place depuis qu'il a 16 ans, il en a maintenant 60, il a toujours été au même travail. Et pour moi, ça, aller avec mon père sur le lieu de travail, tout le passage de l'usine m'a touché au plus haut point. Et la fameuse scène où ta mère oublie que c'est une journée pédagogique et que tu te ramasses à l'école. Mmh, moi, ça, c'est venu me chercher au bout parce que il y a vraiment un côté de moi qui a compris tard que ma mère pouvait se tromper. Puis encore aujourd'hui, quand j'en parle, ça me touche, tu sais, de faire « Ah ouais, t'sais, fait que moi, ça, c'est venu... » me chercher vraiment beaucoup. Fait que oui, beaucoup, beaucoup de passages où je me suis reconnue. Puis c'est ça qui a été étonnant. En fait, on dirait que je réalisais pas, puis je l'ai lu 2-3 fois. Puis la première fois, j'ai pas compris tout ça, à part à la fin, les dernières 30 pages. Je pense que j'ai pleuré au complet parce que je me reconnaissais dans tout tout d'un coup. C'était comme une vague qui arrivait. Et avant, puis tu vois, je lisais, puis j'étais, ah, c'est plutôt, c'est une histoire très personnelle. Ah, c'est bien. Puis je trouvais ça super touchant, cette histoire-là du père avec l'arbre et tout ça. Plein d'affaires que je trouvais vraiment touchantes, mais j'étais, ah, c'est très cute et tout. Puis à un moment donné, ça m'a vraiment submergé, cette reconnaissance. Ouais.
Parce que c'est vrai, ce que tu dis, Ève, il y a un... moi, au début, je me suis dit, bon, je voyais bien qu'elle était souffrante, cette fille, en l'occurrence vous, Alexis Morin. Mais à un moment donné, tu dis, bon, bah ok, voilà, ce sont des souvenirs d'école, machin, gna gna, bon, le bullying, on l'a tous été plus ou moins. Puis tout d'un coup, c'est comme ça, ça déboule et puis on fait comme... ah, la souffrance qui vous amène, alors en plus avec TDAH, les scènes chez Domtar.
Ouais, ouais.
Moi, j'imaginais un film d'ailleurs, je me disais, quelle scène de vous voir torcher les murs, porter la poubelle avec un moteur de 50 livres dedans. Non, non, mais attendez, là, moi, et je me disais, mais c'est en plus, bon, bah, payer ce prix-là pour faire ça, puis tout le monde voulait y aller, tu dis, mais attends, là... Il y a quelque chose là-dedans que je comprends.
C'est une organisation sociale complète qui tourne autour de cette usine-là et qui... c'est l'usine et des fois, je fais la blague, là, si, j'ai l'impression que s'ils pouvaient dire aux citoyens de Windsor pour qu'ils votent aux élections, là, si c'était légal de faire ça, ils feraient.
Qu'est-ce qui vous a touché peut-être le plus, Ève? Bon, c'est vrai que vous, tu l'as dit un petit peu plus tôt, mais... Est-ce qu'il y a un moment, moi je sais qu'il y a entre autres une phrase qui m'a beaucoup touchée sur le temps, j'ai pas envie d'aller refouiller, mais je m'en souviens quasiment parce que j'aime bien apprendre des phrases par cœur, mais c'est une phrase où Alexis Morin, dans ce livre, Ouvrir son cœur, vous dites que si vous ne volez pas à vos amis, votre famille, etc., le temps pour écrire, la vie va vous voler ce temps-là.
J'ai eu
les larmes aux yeux.
Ouais, c'est beau.
Pourquoi? Ça, c'est un petit peu comme chez le psy. C'est tout d'un coup, tu dis quelque chose, puis ça révèle...
Si vous êtes une femme avec la moindre ambition artistique ou d'accomplissement personnel,
c'est vrai.
Vous allez savoir de quoi ça parle.
C'est vrai.
C'est toujours... Puis pour écrire, en plus, c'est long, puis c'est une activité qui est tellement solitaire, qui est tellement isolée, que c'est vraiment du vol.
Toi, Ève, il y a un passage comme ça qui t'a le plus laissé peut-être
Le passage avec la maman à la fin,
maman,
là,
c'est bon,
cette fameuse... Moi, c'est quand elle dit... et je lui ai demandé si j'allais pouvoir manger les muffins à la maison, parce que je me doutais que la réponse allait être non.
Elle a dit oui, là.
Ouais, c'est ça, c'est sûr qu'elle a dit oui. Mais tu fais... Il y a beaucoup, en fait, de phrases, Alexis, que tu as écrites qui rajoutent tellement de profondeur à ce personnage-là, à toi, en fait, et qui fait que c'est quelqu'un vraiment à part entière dans lequel tu peux te reconnaître à plein de niveaux. Entre autres, j'aime beaucoup le passage où elle dit que Fanny, c'est la première rencontre avec Fanny, qui est la petite voisine d'en face, puis elle dit, à ce moment-là, je ne peux pas traverser la rue, elle non plus, il va falloir arranger ça. Je trouve ça magnifique, cette façon. Puis je trouve que ça illustre vraiment bien qui est cette narratrice-là, puis qu'est-ce qu'elle a à dire. Ouais.
Alors, narratrice, éditrice.
Oui, en effet, c'est mon métier.
Ben voilà, c'est votre métier, au Quartanier d'ailleurs même. Artiste peintre, en tout cas graphiste, à un moment donné à vos heures, dessin, mais tout ça, c'est du passé.
Continue
complètement.
Continue à crayonner
un petit peu, mais
sans plus. Okay. Je dessine pour mon gars.
Poète aussi.
Oui.
Parce que j'aimerais bien qu'on lise, d'ailleurs c'est Ève qui va le faire, un extrait ou l'intégralité d'une des poésies qui se retrouve dans le livre « Ouvrir son cœur » parce que... j'ai pas noté la page.
C'est le poème final?
Je l'ai dans la... Je pense que c'est page 58. Non, je dirais page 58, moi. Non, c'est peut-être pas là.
Non, je crois pas, c'est vers la fin, attends. Ici, voilà. C'est 139.
Bon, j'ai tout faux.
C'est 100. Memento mori. J'étais avec mes amis ou avec mes parents. C'est arrivé quelques fois, mais je le raconterai une fois, ça suffit. C'était la nuit et il y avait une grande fenêtre en face de moi. Je bougeais, mon amoureux bougeait. Et mes parents bougeaient. Et mes amis bougeaient. Animés, nous étions animés. Nous étions à l'écran. Et nous étions au restaurant, derrière la banquette, un miroir, où mes lèvres s'ouvraient, où mes mains remuaient. Une fenêtre où mon corps apparaissait tout entier, comme le corps d'un humain. Un livre de haine, un livre tout entier. De répétition, le refrain d'une chanson qui rappelle la mort, et que tu chanteras jusqu'à la vider de toute substance, et sa coquille sera la mort. J'étais à table, c'était la nuit. Il y avait une fenêtre, il y avait un miroir. Et on a remarqué ma fascination pour mon reflet. C'était la honte pour laquelle j'étais faite. C'était la honte pour laquelle j'étais née. Un instant, les gens se sont tus pour me voir, me regarder. C'était la nuit, il faisait noir. Je servais des plats où mes amis mélangeaient leurs voix. C'était la nuit et je servais du vin et des noix. Entre les vins et les noix, je séparais leurs voix. En mots et mon cœur brûlait d'amour. Un livre méchant, un livre de fiel. Une chanson qui tourne et qui tourne et tourne. Et je n'ai plus compris comment ils faisaient pour ne pas penser à la mort, comment ils arrivaient à jamais faire autre chose que de penser à la mort. C'était la nuit et je pensais à la mort.
Extrait de « Ouvrir son cœur ». D'Alexis Morin que je recevais aujourd'hui avec un plaisir, Alexis. Le mot qui me vient à l'esprit, c'est lequel ? C'est tellement niaiseux. C'est très fort. Mais c'est ça pareil. C'est un plaisir, oui. C'est une émotion très forte que j'ai ressentie en vous lisant, d'une part. Ça partait pas comme ça. Et puis, soudain, j'ai posé le bouquin souvent et les Kleenex sont arrivés comme pour Ève. Mmh. Ève, toi, lectrice de ce livre à haute voix, un livre qu'on retrouve maintenant avec une centaine d'autres parce qu'on a fêté récemment déjà la centaine de productions ici chez Vues et Voix, livres commerciaux. Tous ces livres commerciaux, je le précise aux personnes qui sont inscrits au SQLA, se retrouvent en version également accessible, gratuite. Pour les gens qui en ont besoin, qui vivent avec une déficience visuelle. Ce n'est pas parce que nous parlons de livres commerciaux maintenant qu'ils ne se retrouvent pas, encore une fois, gratuitement via le SQLA. Je voudrais vous remercier. Bravo à vous, Alexis Morin, d'avoir reçu ce prix. Est-ce que ça vous a surprise?
Eh bien, oui.
Oui?
Oui. Moi, je pensais pas du tout là, écrire un livre qui allait recevoir un tel accueil.
Ben quand même, 8 ans de boulot, ça méritait
certain,
bien ça.
C'est certain, mais en
ça.
Même temps, c'est quand même un peu... je pensais que ça allait être plus confidentiel, c'est un livre intime.
Eh bien, pas du tout, c'est raté.
Eh bien, voilà, c'est pas plus mal.
C'est la seule chose que vous avez ratée.
Ah ben.
Bravo à vous, Alexis
merci,
Morin.
Clotilde, merci, Clotilde.
Ève Landry, toujours un bonheur de te voir et de t'entendre lire à haute voix. J'espère que c'est le premier. J'espère que c'est bien que ce ne sera pas le dernier qui va nous permettre
chouette,
de t'entendre.
Merci.
Merci à vous deux. Et puis, ben voilà, c'était la fin de la première demi-heure de l'émission. T'as eu peur que je dise que c'était la fin de l'émission. Eh ben non. On se retrouve en seconde partie pour parler de Bat féministe de Roxane Gay. Et avec Marie-Josée Forget, nous allons évoquer I'm Your Man. De Monsieur Leonard Cohen, à plus. Des livres pleins les oreilles, la suite. Alors, en cette seconde partie de l'émission, un coup d'œil et d'oreille sur Bat féministe que j'ai eu la chance et l'honneur de lire à voix haute tout récemment. Cet essai de Roxane Gay, paru chez Edito, se retrouve maintenant en livre, accessible à toutes les oreilles, gratuit, bien évidemment via le SQLA, ou encore en livre commercial, si vous voulez en conserver la trace sur le site livreaudio.vuesetvoix.com, entre autres, mais aussi sur d'autres plateformes comme Apple Books ou encore Audible ou d'autres. Si vous êtes des familiers, bien sûr, du livre audio, ou alors vous allez le devenir. Parce qu'une fois qu'on y goûte, on ne peut plus s'en passer. Hein, mon petit Mathieu ? C'est exactement ça. Et puis, je vais recevoir aussi Marie-Josée Forget, lectrice à haute voix du livre « I'm Your Man » de Leonard Cohen. Elle sera en studio pour nous parler de cette bio et nous confier peut-être quelques-unes des pages qui l'ont le plus marquée. Alors, avant d'ouvrir l'essai sur l'essai de Roxane Gay, Bat féministe, je vous propose cette chanson qui n'est peut-être pas d'hier, mais si vous ne la connaissez pas, je vous invite à bien écouter le texte de cela et cette interprétation. Qui était en public. Donc, c'est pour moi, je pense, la plus vraie qui soit sur le sujet des femmes, et c'est Anne Sylvestre.
S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreilles d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille, S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous ai morcelé mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie. C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux. Et c'est mon cœur ou bien le leur. Et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue. Celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang qui reflète et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suis vrai, je vous prie, ne m'inventez pas. Vous l'avez tant fait déjà. Vous m'avez aimée servante, m'avez voulu ignorante, forte, vous me combattiez, faible, vous me méprisiez. Vous m'avez aimée putain et couverte de satin, vous m'avez faite statue et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une église, toute la honte dessous. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui aime ou n'aime pas, celle qui règne ou qui se bat. C'est Joséphine ou la Dupont, fille de nacre ou de coton. C'est mon cœur ou bien le leur. Celle qui attend sur le port, celle des monuments aux morts. Celle qui danse et qui en meurt, fille bitume ou fille fleur. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, soyez comme je vous ai rêvé depuis longtemps, libre et fort comme le vent, libre aussi. Regardez, je suis ainsi. Apprenez-moi, n'ayez pas peur, pour moi je vous sais par cœur. J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu, l'incendie aussi je peux. J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le sol sous vos pas et je ne le savais pas. Mais un jour la terre s'ouvre et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompant découvre des richesses inconnues. La mer à son tour divague de violence inemployée. Me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyé. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Et c'est l'ancêtre ou c'est l'enfant, celle qui cède ou se défend. C'est Gabrielle ou bien Aïcha, fille d'amour ou de combat. Et c'est mon cœur ou bien le leur. Celle qui est dans son printemps, celle que personne n'attend. Et c'est la moche ou c'est la belle, fille de brume ou de plein ciel. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger.
Ça vaut le coup de prendre 5 minutes de notre temps pour écouter Pareille Splendeur. Quel texte, une sorcière comme les autres, de et par Anne Sylvestre, et cette version publique est tellement plus jolie encore, je trouve, que la version studio, qui nous amène dans l'œuvre de Roxane Gay, bad féministe. Roxane Gay est née aux États-Unis de parents haïtiens, appartenant à la classe, dire moyenne supérieure. Roxane Gay, victime d'un drame personnel à l'adolescence, la vie et le corps de Roxane Gay vont se transformer magistralement. En même temps que sa pensée, qu'elle développe d'ailleurs, notamment autour du féminisme et auquel elle finit par adhérer, même de façon étrange et contradictoire, de son propre aveu. Le mieux, ce serait peut-être qu'on l'écoute, Roxane Gay. On va l'entendre lors d'une conférence qu'elle avait donnée peu de temps après le lancement de ce livre « Bad féministe ». Et c'est un, qui, faut-il le dire, est un livre culte aux États-Unis qui est maintenant disponible en français et en audio, bien sûr. Alors, je vais y revenir, mais avant, on va écouter ce qu'a à nous dire Roxane Gay. C'est évidemment en anglais, mais je traduirai ses propos au fur et à mesure.
I am failing as a woman. I am failing as a feminist. I have passionate opinions about gender equality, but I worry that to freely accept the label of feminist would not be fair to good feminists. I'm a feminist, but I'm a rather bad one. Oh, so I call myself a bad feminist.
J'échoue en tant que femme, j'échoue en tant que féministe. J'ai de ferventes opinions concernant l'égalité des sexes, mais je crains qu'accepter librement l'étiquette de féministe serait injuste envers les bonnes féministes. Je suis une féministe, mais plutôt mauvaise, donc je me surnomme une mauvaise féministe.
When I was younger, mostly in my teens and twenties, I had strange ideas about feminists as hairy, angry, man-hating, sex-hating women, as if those are bad things. These days, I look at how women are treated the world over, and anger in particular seems like a perfectly reasonable response.
Quand j'étais plus jeune, durant mon adolescence, à la vingtaine, j'avais des idées étranges sur les féministes. Je les imaginais en femmes poilues, en colère, anti-hommes, anti-sexe, comme si c'était mal. Aujourd'hui, je vois comment les femmes sont traitées dans le monde, et la colère en particulier me semble une réponse parfaitement raisonnable.
As I got older, I began to accept that I am indeed a feminist and a proud one. I hold certain truths to be self-evident. Women are equal to men. We deserve equal pay for equal work. We have the right to move through the world as we choose, free from harassment or violence.
En avançant en âge, j'ai commencé à accepter que je suis en effet une féministe et fière de l'être. Je considère certains faits comme évidents. Les femmes sont égales aux hommes. Nous méritons le même salaire pour le même travail. Nous devons pouvoir nous déplacer dans le monde à notre guise, sans avoir à subir harcèlement ou violence.
I hold these truths to be self-evident, but let me be clear. I'm a mess. I am full of contradictions. There are many ways in which I'm doing feminism wrong. I have another confession. When I drive to work, I listen to thuggish rap at a very loud volume. Even though the lyrics are degrading to women, these lyrics offend me to my core. The classic Ying Yang Twins song Salt Shaker, it is amazing. Make it work with your wet t-shirt. Bitch, you gotta shake it till your camel starts to hurt. Think about it.
J'aime ces vérités. C'était le dernier segment que j'avais choisi pour vous de Roxane Gay, disant « J'aime ces vérités comme allant de soi, mais soyons clairs, je suis un gâchis, je suis pleine de contradictions, je pratique mal le féminisme de plusieurs façons. » Et elle dit aussi « J'ai une autre confession à faire. Quand je me rends au travail, j'écoute du gangsta rap très fort, même si les paroles sont dégradantes pour les femmes. Ces paroles m'offensent profondément. Le classique Salt Shaker des Ying Yang Twins est génial, elle dit. Fais ce que tu veux avec ton t-shirt mouillé, puis tu dois t'agiter jusqu'à ce que ton cul fasse mal. » Et elle finit par « Pensez-y. » Bien, ça a été coupé, mais elle dit « Poésie, poésie. » Roxane Gay, c'est donc un essai coup de poing sur la vocation du féminisme, son pourquoi, le pourquoi de ses imperfections, de ses erreurs et de ses réussites. Je parle encore du féminisme parce que, entre autres, Roxane Gay, ce qu'elle dit dans ce bouquin, c'est que le féminisme est loin d'être parfait, mais que bien souvent, on lui tombe dessus. Parce que elle dit forcément qu'il est imparfait, puisque ce sont des femmes imparfaites qui sont en train de se battre, qui font simplement ce qu'elles peuvent dans une situation qui ne mérite plus d'être en 2019, qu'on ne devrait même plus soulever. Roxane Gay, elle est écrivaine, elle est conférencière, elle est professeure, et donc elle se dit une batte féministe parce que justement imparfaite, avec ses contradictions, ses coups de gueule, ses espoirs, ses regrets, ses constats sur la société américaine, qui ressemble encore étrangement à beaucoup d'autres, hein, en ce qui me concerne, à d'autres sociétés dites civilisées, en ce qui a trait, hein, au parcours évolutif des femmes, mais pas seulement des femmes, des personnes de couleur, ou encore de tout autre individu qu'on dit faire partie de la diversité. Alors, elle est tout cela, Roxane Gay, et c'est bien ce qui rend son essai percutant, éclairant. Qu'on soit femme ou pas, qu'on soit féministe ou pas, qu'on soit noire ou blanc, qu'on soit handicapé ou pas, qu'on soit gay ou pas, on ne peut que se sentir concerné par les questionnements, les propos et les constats de Roxane Gay, et tout ce qu'elle nous impose comme réflexion. Il s'agit vraiment d'un livre majeur sur le sujet. Voici comment il vous est présenté, tel que paru chez Édito, et donc maintenant en livre audio chez livreaudio.vusevoix.com. Derrière ce titre ironique, Bad Féministe, Roxane Gay développe une réflexion révolutionnaire et bienvenue sur l'état actuel du féminisme. Lassée des prises de position parfois trop clivantes de certaines organisations féministes, elle rappelle que la défense de l'égalité des sexes ne dispense pas d'assumer ses contradictions. On peut aimer la télé-réalité, se peindre les ongles en rose et revendiquer le fait d'être féministe en se fondant sur sa propre histoire de femme noire dans l'Amérique contemporaine. Alors elle parle de culture, de race, de sexe et de genre, d'amitié féminine. L'ouvrage regroupe les chroniques de l'auteur initialement publiées dans The Guardian et sur le site The Rumpus. Le portrait qui émerge en filigrane est celui d'une femme au regard incroyablement juste, portée aussi bien sur elle-même que sur notre société. Je voudrais vous en lire un extrait. J'adopte l'étiquette de mauvaise féministe parce que je suis un être humain. Je suis désordonnée. Je n'essaie pas d'être un exemple. Je n'essaie pas d'être parfaite. Je ne suis pas en train de dire que je détiens toutes les réponses. Je n'essaie pas de dire que j'ai raison. J'essaie tout simplement de soutenir ce en quoi je crois, d'apporter un peu de bien en ce monde, de faire un peu de bruit avec mes écrits tout en restant moi-même, une femme qui aime le rose, qui aime bien baiser et qui danse parfois comme une folle sur une musique dont elle sait. Elle sait qu'elle est abominable envers les femmes. Une femme qui fait la niaiseuse devant le plombier parce qu'il lui est plus facile de le laisser se sentir macho que de rester fidèle à ses idéaux. Je suis une mauvaise féministe parce que je veux qu'on ne me place jamais sur un piédestal féministe. Les gens qu'on met sur des piédestaux sont censés prendre une pose parfaite, et quand ils gaffent, on les déboulonne. Moi, je fais régulièrement des gaffes. Considérez qu'on m'a déjà déboulonné. Quand j'étais plus jeune, je faisais des reproches au féminisme à une fréquence alarmante. Je comprends pourquoi des femmes s'évertuent à le condamner, pour se mettre à distance. Et j'agissais ainsi car, lorsqu'on me qualifiait de féministe, l'étiquette me semblait insultante. En fait, c'était généralement les faire chercher. À cette époque, quand on me traitait de féministe, la première idée qui me venait à l'esprit, c'était « mais j'aime faire des pipes ». Je m'étais mis dans le crâne que je pouvais à la fois être féministe et ouverte d'un point de vue sexuel. J'avais beaucoup de convictions étranges dans la tête pendant mon adolescence et jusqu'à ma vingtaine.
If you want. do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you want to take me for a ride, you know you can. I'm your man. Are the moons too bright? The chains too tight? The beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat. And I'd clog your heart and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man.
Léonard Cohen, bah oui, je le dis à la française, j'ai jamais réussi. Hein. Je veux dire, on m'a toujours appris que c'était Léonard Cohen. Alors ça va être Léonard Cohen, ça vous dérange pas. Mais vous, Marie-Josée Forget, quand vous l'avez lu, vous disiez quoi?
Nous, on dit Léonard Cohen.
Cohen, oh, c'est juste ça.
On fait un mix.
Oh, bonjour Marie-Josée.
Bonjour.
Marie-Josée, comédienne, mm-hmm. Et pour là, enfin, on vous a eu ici pour prêter votre voix à plusieurs livres déjà, oui. chez Vues et Voix, et notamment, je pense que c'est le plus récent que vous avez lu.
C'est le dernier, oui.
C'est le dernier, cette bio, signé, j'ai oublié son
par
nom.
Par Sylvie Simmons.
Simmons, et donc c'est I'm Your Man, pour reprendre évidemment oui. le titre de cette chanson qu'on vient d'entendre par Monsieur Cohen.
Cohen, oui.
Vous l'avez mieux que moi, ça c'est certain. Vous êtes tombée dedans dans la marmite, moi, pas moi. Marie-Josée, oui. Un grand moment que de lire ce livre.
Ça a été particulier parce que j'aimais déjà beaucoup Léonard Cohen.
Okay.
Mais je n'en connaissais pas autant que j'en sais maintenant.
Okay. Donc, alors, vous l'écoutiez beaucoup déjà? C'est un personnage qui vous touchait?
Oui, j'aime beaucoup la poésie. Oui. Très intéressée par la poésie. Et M. Cohen en a écrit beaucoup. Mm-hmm. J'ai donc des recueils chez moi que j'ai lus, etc. Bon. Mais j'avais beaucoup de musique aussi parce que c'est comme ça beaucoup que j'ai appris à connaître Léonard Cohen. Et dans ce livre, on apprend tellement de choses. C'est comme un livre pour les fans de Leonard Cohen. Mm-hmm. C'est vraiment là, on
tout
apprend
ce que vous
tout
avez, c'est ça.
Avec qui il a enregistré, mm. quel musicien a travaillé avec lui, qui est venu faire un enregistrement, finalement sont partis, ils n'ont pas gardé l'enregistrement, ils ont pris quelqu'un d'autre. Mm. Tout. Et du début de sa naissance à Montréal,
oui.
ses origines, parce oui. qu'il est d'une famille de rabbins. Il aurait pu lui-même devenir rabbin.
Oui.
Et c'est pour ça qu'on découvre beaucoup dans sa musique et dans sa poésie cet esprit de recueillement,
oui.
cette profondeur. Oui. Moi, ça m'a appris beaucoup de choses de lire ce livre sur cette profondeur
oui.
qu'on entend dans ses paroles.
Est-ce que c'était un sage? Non, je dis ça, c'est parce qu'en plus, c'est cette espèce de voix
oui,
comme ça.
Oui, cette voix.
Et, non, mais c'est vrai qu'il vous amène. Et on a l'impression... ça ne devait pas être juste un saint, c'est pas possible.
Non, pas du tout.
Ah, alors.
Ben, c'est les années 60, c'est les années 70. Mm-hmm. C'est, en plus, ce qui est intéressant et qui a été intéressant pour moi qui est francophone, même si je suis montréalaise, c'est qu'il vient d'un univers anglophone parce qu'il est juif.
Oui.
Il était donc plutôt axé vers le monde anglophone. Et à cette époque-là, c'était très séparé, le monde francophone, le monde anglophone. Les écoles commençaient pas à la même heure, ils avaient pas les récréations à la même heure, ils sortaient pas à la même heure. C'était vraiment deux mondes qui vivaient parallèlement. Donc lui, naturellement, il s'est tourné vers les États-Unis, vers les gens anglophones, vers la musique anglophone, même s'il a été toujours amoureux de Montréal et qu'il est revenu constamment vivre à Montréal.
Qu'est-ce qui vous a le plus... D'abord, surprise. Est-ce que vous avez eu des surprises au détour des pages?
Oui, bien sûr. Oui, oui. Je ne savais pas qu'il avait une maison à Hydra, en Grèce, qu'il s'était acheté. Mais bon, à l'époque, 1960, je ne sais pas quoi, 62, 67, ça ne coûtait rien habiter sur cette petite île où il n'y avait personne, ou presque. Il y avait des pêcheurs. Et c'est un homme qui n'avait besoin de rien. Ça aussi, ça m'a surprise. Il était toujours dans les appartements qu'il habitait, dans les hôtels où il est allé, une table, une chaise, une fenêtre, c'est tout. Il n'avait pas... même s'il y a des moments où il a fait de l'argent, où il aurait pu dire bon, « je m'achète ci, je m'achète ça », etc. Non, c'était pas quelqu'un qui avait cette préoccupation-là. C'était vraiment quelqu'un qui était tourné vers l'intérieur, même si, il y avait le monde de la drogue dans la musique à cette époque-là, les enregistrements. J'ai beaucoup apprécié les détails des enregistrements parce que j'ai découvert qu'il y avait des instruments sur certains albums que je n'avais jamais entendus, que je n'avais pas remarqués.
Du coup, vous avez réécouté les albums.
Ben oui, c'est sûr.
Et là, ce que je voudrais, Marie-Josée Forget, je rappelle à nos auditeurs que nous parlons du livre « I'm Your Man », cette biographie. Je voudrais que vous nous en lisiez un extrait parce que le temps file.
D'accord.
Et ce serait vraiment sympa.
Oui. Alors, je vous lis un chapitre, le chapitre 8. Qui,
un petit bout?
Oui, un petit bout. Un tout petit bout. Pas tout le chapitre, parce que c'est un livre volumineux.
Oui.
On peut avoir du plaisir à le laisser de côté, à y revenir. Voilà. Alors, ça commence comme suit. Se raser sans se presser. Tandis qu'à Hydra, Léonard décompensait, bien mal en point, et que Marianne le soignait comme Macha avait autrefois soigné son père, le documentaire qui se préparait au Canada le présentait sous un jour bien différent. Filmé en octobre 1964, la scène d'ouverture nous montre un jeune homme en pleine possession de ses moyens. Il n'a rien d'un accro aux amphétamines. Il ressemble plutôt à Dustin Hoffman, jeune, fringant, pas tout à fait dégagé des rondeurs de l'enfance. Debout sur scène, il amuse un public d'étudiants en racontant comment, alors qu'il rendait visite à un ami admis à l'hôpital psychiatrique de Montréal, il avait été pris pour un malade. Drôle, sarcastique, il manie l'art de l'autodérision et s'exprime comme un véritable humoriste de scène. « Ladies and gentlemen, Mr. Leonard Cohen » sortit en 1965. C'est un documentaire en noir et blanc, composé de séquences filmées par Don Owen, au cours de la tournée de lecture des quatre poètes et de scènes inédites tournées par Donald Britton, réalisateur à l'Office national du film. Dans cette deuxième partie illustrée d'une bande-son jazzy, on voit Léonard faire tout un tas de choses cool dans les endroits les plus cool de Montréal. Une voix hors champ lui attribue un talent singulier perceptible dans les quatre livres déjà parus, « Beautiful Losers », était terminé, mais pas encore publié, le film eut beaucoup plus d'impact sur sa notoriété que l'ensemble de ses prix littéraires et l'album « Six Montreal Poets ».
Marie-Josée Forget, que vous venez d'entendre, est la lectrice de tous tout le bouquin. C'est quoi ces 500-600 pages? Ça va représenter à peu
533,
près
533, je crois.
11-12 heures, bien comme il faut, au niveau du livre audio, au moins.
Ah oui, oui, au moins, même plus que ça,
même
je crois.
Même plus que ça.
C'est... Oui.
Marie-Josée, plaisir de vous entendre parler de ce livre que, évidemment, ça aurait été difficile pour nous d'avoir soit l'auteur, moins
oui.
la personne dont il est question.
Mais
j'étais ravie que, du coup, que vous acceptiez, vous qui avez si joliment prêté votre voix à ce livre, à cette émission des livres pleins les oreilles, dont c'était la dernière, mes amis. Et comme c'est la dernière, eh bien je voudrais prendre du temps pour remercier chaleureusement Mathieu Tessier, qui était une fois encore à la technique, mais qui est plus qu'à la technique. Il est une épaule, il est un sourire, c'est vraiment très très agréable de travailler comme cela. Merci à Alexis Morin, Eve Landry, Roxane Gay, Marie-Josée Forget, mes derniers invités. Si tout va bien, on devrait se retrouver bien l'an prochain, espérons-le. Salut! Bon été, bonne lecture, en audio bien sûr, goûtez-y au livre audio. C'était Clotilde Seille à l'émission des livres pleins les oreilles. Salut tout le monde.